Merci. Alors, on ne va pas forcément tout étudier, mais on va relever quelques petites choses ici. C'est que la décence, c'est simplement le fait d'être correct, d'être bienséant, d'être réglé dans sa conduite. C'est sûr que si on veut être une femme enseignante, mais qu'on a les cheveux en pétard, ça ne va pas. Il y a quand même un soin minimum à avoir. Et la pudeur, c'est un mot qui s'apparente au respect, à l'égard pour les autres. Donc on va faire attention à cacher certaines parties du corps, bien sûr, par respect pour l'autre. Et la modestie, c'est le bon sens. Donc vraiment une tenue en ordre correct. Il faut attirer l'attention par son caractère pieux et non par la tenue vestimentaire. Et donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut mettre qui sont flashy, je sais pas, il y a des choses qui sont un peu bizarres, mais il faut rester sobre hein, dans la tenue. Actuellement, dans notre église, on est en train d'étudier le livre de Ruth. Et ce qui m'a frappé, c'est que Naomi a suggéré à Ruth, sa belle-fille, des conseils en matière de soins corporels. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce sont des conseils sages, de soigner sa coiffure, son visage, son habillement. Naomi lui a même dit de se parfumer. Et tout ça parce qu'il fallait qu'elle aille demander, faire une demande à Boaz, la demande en mariage, en quelque sorte. Et donc, moi, j'ai vu ça comme plutôt comme le fait que c'est important. C'est un peu de bon sens. C'est juste important de fluidifier la communication, de se parfumer, d'être propre. Et c'est vrai que si on n'est pas propre, on aura du mal à communiquer un message. Donc, c'est très important. Et quand on vit à l'église, on doit avoir nos petits vêtements spécifiques pour l'église. Enfin, il me semble, hein, il faut faire attention quand même à la tenue qu'on porte. Parce que la tenue que l'on porte va transmettre la sainteté de Dieu et l'honneur qu'on lui doit. Et donc, c'est important quand même de ne pas s'habiller n'importe comment. On ne va pas s'habiller en jogging quand on est en jogging. Voilà, quand on fait notre sport, on ne va pas venir en tenue de sport à l'église. Il y a des tenues qui sont plus ou moins correctes, conformes, convenables, qui conviennent à des situations et pas à d'autres. Tout simplement cela. Et puis ensuite, la femme mature, enseignante, etc., elle doit aussi avoir un bon usage de sa langue. Donc, bien sûr, attention à l'usage qu'on fait de la langue, aux paroles légères, aux critiques, aux calomnies, aux médisances. Et 1 Timothée 3,11 rappelle que toutes les femmes doivent être honnêtes, non médisantes et sobres, fidèles en toutes choses. Proverbe 18, verset 21 nous dit que ceci par rapport à la langue. Proverbe 18, verset 21. La langue a un pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Donc la langue a deux pouvoirs. Vous voyez cela? Un pouvoir de vie et un pouvoir de mort. Donc, soit vous allez apporter la vie par votre langue, c'est-à-dire encourager, soutenir, relever quelqu'un dans sa douleur, faire du bien, ou soit au contraire, vous allez décourager, rabaisser, humilié. Donc il est très important de retenir la langue, de retenir ses lèvres et ne pas parler avec légèreté. Les paroles peuvent être destructrices. Dire par exemple à ses enfants, t'es nul, c'est leur rabaisser et l'humilier. Parce que non, il n'est pas nul. Il a des capacités autres. Et donc c'est à nous parents d'encourager dans ses capacités. Donc, nos paroles aussi révèlent ce qu'il y a dans notre cœur. Souvent, nous pensons qu'il faut se faire entendre, il faut lutter pour faire valoir ses droits, face à un patron, à un collègue désobligeant. Réagir verbalement semble être la bonne solution. Mais rappelons-nous que la langue a deux pouvoirs. Il ne faut jamais chercher à détruire son interlocuteur, même s'il a tort. Même s'il a tort. Notre Seigneur Jésus-Christ, on s'est moqué de lui. On lui a craché au visage, mais il n'a pas dit une parole de travers. Rappelez-vous. Et c'est un modèle pour nous dans ce sens-là. Il n'a pas ouvert la bouche face aux insultes de ses adversaires. Et en tant qu'épouse ou mère, la conduite silencieuse est l'arme efficace qui peut amener un mari inconverti au Seigneur. Ça, on le voit dans 1 Pierre 3, verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. On peut avoir des situations où on est marié avec quelqu'un inconverti et des fois là c'est très très difficile. Hein. Je reconnais que vivre cela c'est pas facile. Hein. Je connais des sœurs qui souffrent énormément dans ces situations où le mari ne connaît pas le Seigneur. Mais il est dit, chapitre 1 Pierre 3 verset 1, vous de même femme, soumettez-vous à votre mari ainsi. Ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Donc vraiment la tenue, la manière de vivre, c'est pas plus que des paroles. Faire des actes de bonté, de gentillesse, ça a plus de pouvoir que des paroles, c'est souvent. Ensuite, on voit que le caractère qui est décrit pour la femme âgée, la femme qui va enseigner, qui a cette maturité, c'est qu'elle ne doit pas être esclave de la boisson. Donc, bien sûr, la boisson trouble l'esprit. Hein? Il faut avoir l'esprit clair pour réfléchir. Il ne faut pas être sous emprise de l'alcool ou de n'importe quelle boisson. Cela va compromettre la communication. Et puis, c'est une œuvre de la chair qui est problématique. Hein? D'ailleurs, il est dit dans Galates 5, 21 que ceux qui commettent de telles choses, c'est-à-dire l'ivrognerie, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il faut vraiment être esclave de Christ et pas d'autre chose. Et ensuite, il est parlé du fait que nous avons... Voilà, la femme mûre, âgée, doit avoir l'obligation d'enseigner pour l'honneur de la parole de Dieu. Et donc, après avoir vu que Dieu, son royaume, la relation avec Dieu, c'est la priorité numéro un. La priorité numéro deux pour la femme mariée, ça va être de prendre soin de sa famille et ça va être aussi l'éducation des enfants. Parce qu'il est dit qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques. Et bien sûr, pour donner de bonnes instructions, il faut connaître la parole de Dieu. Donc, on revient encore un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. C'est tellement important de chercher à connaître la parole de Dieu. Pour pouvoir, il faut la connaître, il faut l'étudier pour la transmettre fidèlement à d'autres. Et à notre prochain, c'est vraiment déjà notre cercle familial, notre foyer, nos enfants. Et ensuite, ça peut s'étendre à d'autres personnes. Et c'est à nous femme âgée, mature, que Dieu a confié la responsabilité du ministère d'instruction, de conseil auprès d'autres femmes plus jeunes dans la foi. Cela n'incombe pas seulement à la femme du pasteur. Nous pouvons avoir un rôle important et avoir une très très grande influence auprès d'autres sœurs. Soit en encourageant à lire la parole, en apprenant. Peut-être vous pouvez juste encourager une sœur à apprendre un passage par cœur pour l'aider, ce genre de choses. Ou même expliquer un petit peu certaines choses. Des fois, il y a beaucoup de sœurs qui ont des questions. Et si vous n'avez pas pris le temps d'étudier ces choses avant, comment allez-vous répondre aux questions qui vous seront posées? Il faut vraiment que la priorité soit d'approfondir sa connaissance de la parole de Dieu pour que nous puissions être des femmes qui accompagnons d'autres. Nous sommes la gardienne de nos sœurs, quelque part. Et on a une grande responsabilité. Et de plus, cela aussi, comment expliquer, cela aussi protège les hommes, parce que c'est, vous savez que c'est toujours quand même une tentation pour des hommes d'enseigner à des femmes. Donc si nous, si dans l'Église, il y a des femmes qui sont matures, qui connaissent la parole de Dieu, on pourra leur confier peut-être le suivi, la formation d'une sœur jeune dans la foi. Donc, il faut vraiment comprendre notre rôle en tant que femme dans l'Église, et qui est très, très important, et que nous pouvons jouer envers les plus jeunes. Quand le Seigneur a dit « Allez par toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et de l'Esprit », on se sent concernés. Nous aussi, les femmes, nous avons ce mandat de former des disciples, de former des enfants spirituels. Donc, certaines formations bibliques doivent être faites par des femmes, pour des femmes, pour éviter la tentation. Nous devons être la gardienne de notre sœur et lui montrer comment glorifier Dieu dans sa vie et proclamer les œuvres de Dieu à chaque génération. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Donc soyons, cherchons à être une enseignante mature en nous revêtant de toutes ses qualités. Et donc, qu'est-ce qu'elle doit enseigner? L'amour de la femme mariée pour son mari. Une relation d'amour et de soumission. En Genèse chapitre 2, versets 18, 23 et 24, il est dit, quand le Seigneur il a créé Adam et Ève, il a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Et donc, en tant que femme, mariée, là je m'adresse aux femmes mariées bien sûr, il est important de chercher à être une aide appropriée, un soutien pour le mari. Le vis-à-vis, c'est-à-dire que nous n'avons pas forcément les mêmes manières de voir les choses. Nous sommes complètement différents, hommes et femmes, n'est-ce pas? Et nous allons apporter, nous femmes, une autre dimension, une autre vision à une situation ou à un problème. Et nous avons un rôle important à jouer. C'est un rôle, en fait, complémentaire. Et si nous prenons à cœur notre rôle, pas besoin de supplanter le rôle de leadership du mari. Nous pouvons avoir une très, très grande influence en tant que femme. Et donc, nous devons chercher vraiment à être un soutien, une assistante, une collaboratrice. Votre mari est-il votre proche ami? Est-ce que vous lui faites du bien tous les jours? Un des moyens de faire du bien, c'est de préparer un bon petit repas. Moi, je sais que mon mari, quand il y a un bon petit repas, il est aux anges. Hein? Et je sais que malheureusement, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle donne ça comme conseil? C'est évident quand même d'aimer son mari, mais non, pas toujours. Hein? C'est pas toujours évident. Aujourd'hui, chacun a sa vie. Et même préparer un repas, ça devient compliqué hein, pour des sœurs. Hein? Il y en a qui ne savent pas cuisiner du tout. Hein? Mais c'est un moyen d'aimer sa famille, d'aimer son mari que de cuisiner un bon petit repas. Et de se retrouver autour de repas chauds, ça fait plaisir, même aux enfants. Donc il faut prendre le temps de donner ce bienfait à notre famille. Et n'oubliez pas que votre mari, c'est le premier arrivé dans le foyer. C'est à lui que vous devez donner la priorité. Pas le mettre à l'écart. Alors, c'est vrai que des fois, quand les bébés arrivent, c'est compliqué. Je comprends qu'il y a une période de la vie où les bébés exigent beaucoup d'attention. Mais à un moment donné, il faut mettre les choses dans l'ordre, dans le bon ordre, et accorder la priorité au mari. Nous sommes un. La Bible dit que l'homme et la femme sont un, donc on doit rester unis. Donc, c'est le premier arrivé dans le foyer et vous êtes un don de Dieu pour l'aider à exercer son rôle de leader. Pas de l'usurper. C'est à vous de l'aider. Il faut l'aider. De plus en plus, les hommes n'ont pas conscience de leur rôle de leader, de chef de famille. Et c'est à nous, femmes, de les aider à dire, mais tu dois prendre la décision. Il faut que tu... Allez, viens, on fait le culte personnel ce soir. Voilà, c'est à nous, des fois, d'encourager le mari à prendre ce rôle de leader. Et il faut, d'après 1 Corinthiens 7, travailler à l'unité et à l'intimité du couple. Rester unis, faire le maximum de choses ensemble, faire du bien l'un à l'autre. Comme on le lit dans Proverbe 31, la femme de Proverbe 31, elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. C'est une femme sage. Et c'est sage de faire cela. Il faut se consulter, communiquer ensemble, dialoguer. Nous sommes un, vous êtes un avec votre mari, il faut rester un. Il n'y a pas de place pour la séparation. Dieu a prévu cette relation spécifique avec son mari, parce que cette relation va représenter l'amour et l'unité qu'il existe entre Dieu le Père, Dieu le Fils, dans la divinité. Ça, on va le voir tout à l'heure. Et la question de la soumission, Éphésiens 5, versets 22 à 24. Et donc, il est dit dans Éphésiens 5, on va lire ensemble, versets 22 à 24. Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Alors je sais que ça c'est la soumission, c'est un thème qui fait polémique, n'est-ce pas? Mais on a besoin de réentendre pourquoi c'est important d'être soumise. C'est en fait fonctionnel, hein, tout simplement fonctionnel. Là, dans ce passage-là, on voit une analogie entre la soumission de Christ, de l'Église à Christ, et la soumission de la femme à son mari. La femme doit être soumise à son mari qui est son chef, donc c'est une image de cette soumission de l'Église qui est soumise à Christ, qui est son chef. En se soumettant, cela n'enlève rien à notre égalité en tant qu'être humain. Nous sommes égaux, hein? On ne perd pas en égalité, nous avons été créés de la même chair, des mêmes os, nous avons autant d'intelligence et de capacités, mais il faut juste répartir ces capacités entre celles que font les hommes et celles que font les femmes. Et il est tout à fait possible d'allier soumission et autorité. C'est une soumission pour un fonctionnement harmonieux dans le foyer et dans l'Église. Beaucoup d'entités dans le monde fonctionnent ainsi. C'est un principe voulu par Dieu et qui a ses ramifications dans le monde. Vous voyez bien que dans tous les domaines, il y a toujours un patron et il y a toujours des personnes qui lui sont soumises. Que ce soit dans la politique, dans la culture, dans l'éducation. Si on travaille à l'extérieur, on est obligé d'être soumise à notre patron. Et si on est à l'Église, il faut être soumise aux anciens de notre Église. C'est très important aussi. Donc voilà, c'est important de comprendre que la soumission, c'est quelque chose de fonctionnel, rien de plus. Et ça consiste... Et si en plus le mari est au Seigneur et qu'il aime sa femme, ce ne sera pas de l'autoritarisme, hein, ce ne sera pas des brimades, ce ne sera pas des choses de ce genre, mais au contraire, ce sera fonctionnel. Ça veut dire qu'on va fonctionner ensemble dans une harmonie, dans une paix, on va s'écouter mutuellement et puis après aller dans la voie du Seigneur. Et donc, pour pouvoir donner la priorité à nos maris, quand ça, Oui, parce que surtout quand on a un foyer et des enfants, il est important quand même de trouver un temps dans la soirée pour dialoguer avec lui. Et un petit conseil, couchez les enfants assez tôt pour dialoguer avec votre mari, pour échanger sur les activités de la journée, lire un passage biblique, prier ensemble. Ça fera toute la différence quand vous allez pouvoir communiquer ensemble et connaître l'un l'autre les sujets, les difficultés ou simplement vous aurez des sujets pour lesquels prier, en fait, pour votre mari. Donc ces choses-là, même une femme qui n'est pas mariée, mais qui est mature, peut l'enseigner à une femme jeune. Parce qu'elle est mariée qu'elle ne peut pas enseigner cela. Parce qu'elle enseigne la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, on est toutes appelées à enseigner les jeunes femmes. Et des fois, il y a des jeunes femmes qui arrivent dans l'église, elles ont un passé difficile, elles ont un passé lourd, et on ne sait pas toujours comment les conseiller, mais souvent ça vient d'une méconnaissance de la parole de Dieu, et qui fait qu'il y a des conflits inutiles. Et donc c'est à nous, femmes matures, de pouvoir guider les jeunes femmes dans cette direction. Après le mari, voyons maintenant les enfants. Il est important d'aimer ses enfants de manière inconditionnelle, inconditionnellement. Et d'après 1 Timothée 1, 2. Alors, on va lire cela. 1 Timothée, chapitre 1, verset 2. 1 Timothée, chapitre 1, verset 2. Alors, l'apôtre Paul dit ici. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce et la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ. L'apôtre Paul n'a pas été marié, que je sache. Et pourtant, il parle de son enfant véritable dans la foi. Donc, il a engendré un enfant spirituellement. Et donc, ça, c'est un exemple pour nous. On doit chercher à être une maman spirituelle, à engendrer des enfants spirituellement, dans la foi, être un mentor. Et dans Deutéronome 6, versets 5 à 9, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est maman et qu'on a des enfants? Notre responsabilité, c'est de chercher à transmettre les vérités du royaume de Dieu. Deutéronome 6, 5 à 9. Qui c'est qui l'a avant moi, qui pourrait lire? Deutéronome 6, 5 à 9. Merci. Merci. Donc, vous voyez, là, c'est important d'éculquer les commandements à nos enfants. On va voir plus tard, on va développer un petit peu plus tard. Et dans Éphésiens 6, verset 4, il est parlé de la responsabilité de corriger et d'instruire. Et ça, c'est aussi un problème aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. Alors, maintenant, comment aimer ses enfants inconditionnellement? 1 Corinthiens 13 nous donne une bonne définition de l'amour inconditionnel. N'est-ce pas? On va pas tout lire, mais on pourra, mais peut-être vous garder cela comme repère, hein, pour vous aussi, et vous dire comment je peux aimer mes enfants de manière inconditionnelle. 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre sur l'amour, hein, où il est dit que l'amour, si je parle, etc. On va lire au verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté. Ça va? Vous êtes avec moi? L'amour est patient, verset 4, hein? 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Souvent, ce passage-là est pris dans les mariages, n'est-ce pas? Mais il nous concerne aussi dans les relations avec les enfants. Puisqu'on doit apprendre à aimer nos enfants, on a besoin de faire preuve de patience. Surtout quand les caractères sont difficiles et désobéissants. Et les enfants, en fait, il faut connaître un petit peu leur stade de développement. Quand ils sont petits, ils ont besoin de bouger. Et il faut prévoir de les emmener dans un parc pour pouvoir se défouler, par exemple. Ou bien si on a un jardin, ben, il faut les laisser jouer, il faut laisser... Tout. Voilà, on ne peut pas les cantonner dans un espace clos. Mais au moins, en France, on a quand même des possibilités de faire du bien à nos enfants en les emmenant dans les parcs. Moi, je me rappelle qu'avant qu'on ait notre appartement, on a mis nos enfants dans un parc. Ils avaient besoin de se défouler. Ils ont besoin de ça. Et puis aussi, les enfants, quand ils sont petits, ils sont curieux. Vous avez remarqué. Ils posent beaucoup de questions. Donc, il faut être patient pour y répondre. Il faut prendre le temps de répondre aux questions des enfants. Et même de jouer avec eux, de les éveiller. Donc, on peut multiplier les exemples. Hein. Mais ce qui serait bien, c'est que plus tard, dans notre discussion, que vous apportiez plein d'idées à toutes nos sœurs. Moi, j'ai donné juste quelques petits exemples, mais j'aimerais bien que vous apportiez aussi vos conseils de femmes matures pour les jeunes mamans, par exemple, qui ont besoin de savoir comment manifester l'amour pour les enfants. Il est dit que l'amour est plein de bonté. Il faut manifester de l'amour, de la tendresse, de l'affection avec les enfants. Il faut prendre le temps de dialoguer avec eux. Il faut leur réserver un petit temps. Hein, si on est toujours pressé à droite et à gauche, c'est notre priorité par rapport à d'autres choses. C'est les enfants. Et donc, il faut vraiment prendre ce temps avec eux et ne pas les négliger. Et quand il dit que l'amour ne cherche pas son intérêt, cela veut dire que l'amour requiert un sacrifice de soi. On ne peut pas forcément aller se faire les ongles ou autre chose. Quand on a des petits-enfants, la priorité, c'est eux. Hein? Il faut... J'ai donné un exemple qui m'est venu par la tête, mais c'est vrai que des fois, on prend des heures et des heures pour nos petits soins personnels. Mais les enfants ont besoin de nous. Les jeunes enfants ont besoin de la présence de la maman. Les adolescents ont besoin de l'autorité et de l'amitié des parents. Les jeunes adultes ont besoin de la sagesse des parents. Et les parents, ils ont l'entière responsabilité de l'instruction de leurs enfants. Éphésiens 6, 4. Les enfants sont une bénédiction, c'est pas un poids. Aujourd'hui, on se dit, on entend cela, hein? Oh là là, je vais faire que un ou deux parce que finalement, c'est compliqué, ça coûte cher. Non, ce n'est pas un poids, c'est une bénédiction. Et ce sont certainement une descendance spirituelle dans laquelle vous allez investir et inculquer les valeurs du royaume. Après, ce n'est pas nous qui convertissons nos enfants. Mais nous avons la responsabilité de les instruire. Et dans les relations avec les enfants, il faut faire attention au favoritisme, hein, qui entraîne des dégâts. D'accord ? Vous avez l'histoire de Joseph, si vous la connaissez. On ne va pas la revoir parce que ça va prendre trop de temps. Et une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que les enfants doivent entière soumission à leurs parents. Ils doivent se soumettre à leurs parents. Ce ne sont pas eux qui font la loi. C'est aux parents que revient la responsabilité d'enseigner les enfants. Ce n'est pas l'Église. L'Église, elle accompagne. Il ne faut pas tout laisser entre les mains de l'Église, hein, et dire que, voilà, à la maison, je ne fais rien. Non, c'est aux parents d'enseigner, d'inculquer les vérités bibliques aux enfants. L'Église apporte un accompagnement. C'est très bien. Donc, c'est bon de revoir ce que l'enfant a vu dans la classe, de lui poser des questions. Et puis d'approfondir ce que peut-être l'enfant a vu, mais c'est important. Surtout que maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup de matériel, de support à disposition pour les enfants, des petits livres, des bibles imagées, ce genre de choses. Et puis c'est important de pouvoir en parler dans la vie de tous les jours, de toujours faire référence au Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 22, 6 nous dit: forme le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en dévira pas. Alors là, il ne s'agit pas de salut. Hein. C'est pas parce qu'on a, on a fait toutes ces choses que voilà, il va être sauvé. C'est pas cette idée-là. Mais c'est l'idée qu'il ne faut pas éduquer l'enfant qui suit sa propre voie, ses propres désirs. Parce que les désirs sont charnels. Hein. Les enfants, ils ont déjà une volonté bien marquée, très jeune. Je sais si vous avez remarqué. Ils ne veulent pas ceci, ils ne savent même pas pourquoi ils ne veulent pas. Mais seulement ils sont rebelles. C'est un petit côté rebelle, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais si vous dites, André ne veut pas ceci, alors je le laisse faire. C'est la catastrophe. Comment? C'est la pire des choses, hein? C'est la pire des choses. Et beaucoup de parents aujourd'hui se calent sur les désirs des enfants parce qu'ils ont peur qu'ils fassent une petite crise. Laissez-les faire sa crise. Mais après, rappelez-lui que ça ne sert à rien. Et puis, que vous n'allez pas céder. Aujourd'hui, il n'y a plus de contraintes pour que les enfants apprennent à obéir. Alors que la voie qu'il doit suivre, c'est la voie de l'obéissance, du respect de l'adulte et du respect de la crainte de Dieu. Si l'enfant ne respecte pas ses parents, il ne respectera pas la maîtresse. Il ne respectera pas les autorités. Il ne respectera pas Dieu. Ça, vous le savez. Hein? Donc, c'est très important d'inculquer cela aux enfants. Et donc, tous les parents chrétiens voudraient que leurs enfants suivent la voie de Dieu. Mais il faut les former pour cela, en fait. Les instruire, leur donner de bonnes habitudes très tôt. C'est ce qui est dit dans la Bible du français courant. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Et ça peut être des habitudes de vie, de politesse, de respect de l'adulte. Ça, même s'il n'est pas converti, mais il va garder ses bonnes habitudes de respect. Et donc, c'est important aussi de mettre en place un culte de famille, d'apprendre à vos enfants à lire la Bible, à l'étudier aussi, à louer Dieu, à prier. Le soir, dans le culte de famille, apprenez. Moi, je me rappelle que nous, on apprenait aux enfants des versets, des passages, psaume 21, psaume 1, et les enfants connaissaient tous ces passages clés de la Bible. Donc, c'est important de vraiment les aider à aimer la parole de Dieu. Proverbe 6, versets 20 à 22. Quand tu te promèneras, les commandements te guideront. Quand tu dormiras, ils veilleront sur toi. Et quand tu te réveilleras, ils te parleront. Les commandements vont avoir une influence dans la vie de vos enfants. Ce qu'ils auront entendu, ça va avoir une influence. Ma petite fille, moi j'ai un peu oublié tout ce que mes enfants ont fait, mais maintenant ce qui est plus récent, c'est mes petits-enfants. Et ma petite fille, quand elle se retrouve avec la famille et puis d'autres personnes, elle n'hésite pas à dire, mais toi tu ne crois pas en Jésus, hein? Il faut que tu te tournes vers Jésus, hein? Elle n'a que 5 ans. Donc, elle a compris que c'était important de parler du Seigneur Jésus. Et ensuite, la nécessité de la discipline. Proverbe 3, versets 11 à 12. Il faut discipliner les enfants. En fait, la discipline, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour votre enfant. Parce que le laisser suivre sa propre voie, c'est l'emmener vers les pire situation qu'il va connaître plus tard. Mais si vous le disciplinez très jeune, eh bien, il va être redressé. Moi, je peux vous le dire, hein, j'ai eu 4 enfants et ça n'a pas été facile. Mais c'était nécessaire. Il a fallu la discipline, c'était nécessaire. Proverbe 3, versets 11 et 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel Et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. C'est la traduction second 21. Mais vous avez peut-être autre chose dans vos Bibles. Donc, le châtiment, c'est le mot qui veut dire, en fait, la correction, la leçon, l'exemple, les arguments. Ce qui est très mauvais, en fait, c'est de châtier son enfant, de le corriger, sans explication. D'accord ? Sans argumenter. Sous le coup de la colère. Il faut expliquer pourquoi on châtie. En montrant la vérité de la parole de Dieu. Et en lui montrant aussi que c'est par amour qu'on le fait pour lui. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et après, il vous remerciera. Même si aujourd'hui, je sais que c'est interdit, hein, je crois. Hein. Mais malheureusement, c'est nécessaire. Hein. Il faut le faire très tôt. Il faut le faire très tôt. Très jeune. Oui, comme ça, ils auront déjà pris l'habitude d'obéir. C'est clair. Donc voilà, on a vu que c'était important de discipliner, d'aimer ses enfants de manière inconditionnelle. Et notre Seigneur, c'est l'exemple suprême de l'amour en action. Il a dû se sacrifier pour nous, n'est-ce pas? Et les mères et les mentors doivent se sacrifier pour aimer véritablement. Il y a plein de choses que je n'ai pas faites quand j'avais mes enfants en bas âge. Déjà, je ne travaillais pas. J'étais au foyer. Et c'est après que j'ai pu avoir une activité rémunérée, mais dans mon foyer. Et c'est vrai qu'on est obligé. Si vraiment on veut avoir une influence sur nos enfants, il faut être là le plus possible. Donc les mères doivent se sacrifier et les mentors aussi. Si on veut prendre le temps de former les disciples, cela requiert un sacrifice du temps. Moi, je sais que je peux vous dire, hein, quand j'ai suivi des jeunes femmes pour qu'elles puissent être baptisées, etc., ben, il n'y avait que le samedi, le jour où il fallait faire les études. Hein. Et c'est difficile parce que c'est le samedi, le jour où on a envie de se reposer. Hein. N'est-ce pas? Mais priorité au royaume de Dieu. Priorité au royaume de Dieu. Et donc, quand on veut vraiment aimer les enfants et les enfants spirituels, cela requiert un sacrifice pour aimer véritablement. Et bien sûr, il est nécessaire de prier pour la famille. Donc voilà, si vous voulez engendrer une descendance spirituelle attachée à Christ, que ce soit vos enfants ou bien des jeunes filles dans la foi, il va falloir se sacrifier. Ça, il faut que vous soyez consciente de cela. Maintenant, voyons un petit peu ce que l'apôtre ici donne comme autre conseil, toujours à partir de Tite, chapitre 2, versets 3 à 5. Il est dit donc que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur, etc., etc. Elles doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues. Il faut apprendre aux jeunes femmes à être retenues, à être chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, ça on l'a déjà vu, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, il est parlé de la retenue. La retenue, c'est en fait le fait d'avoir un esprit sage qui limite ses désirs et ses impulsions avec sang-froid. La retenue, c'est la réserve. Et ce n'est pas donner cours à ses passions, à la colère, à ses sentiments, voilà. Mais être retenu et être sage. Des fois, il faut parler, il ne faut pas parler. Donc, il faut vraiment avoir cette sagesse qui limite ses désirs et ses impulsions. Et la pureté, donc il faut apprendre aux jeunes femmes à être pures, chastes ou pures. Et donc, ça, c'est quelque chose de très, très important. On a vu tout à l'heure que, au tout début, je vous ai mis un verset que j'ai utilisé pour pouvoir orienter cette étude. C'est le verset à la page 1 de Matthieu 23, 26. Pharisiens, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Il faut nettoyer l'intérieur. Et donc, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, etc. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute, à ce qu'on lit. Parce que toutes ces choses-là, à ce qu'on regarde, toutes ces choses vont avoir une influence sur notre pureté. Et donc, la femme chrétienne, il faut lui apprendre à être pure. Il n'y a pas de place pour l'adultère. Dans ce qu'on regarde souvent dans les films, c'est ils prônent l'adultère. On pense que ce sera meilleur ailleurs. Hein. Non, il n'y a pas de place pour l'adultère. La pureté dans les relations, même avec les hommes aussi. Hein. Comment est-ce quelle relation on a avec certains hommes de notre Église. C'est important vraiment de rechercher la pureté dans les relations. Et puis ensuite, voyons la question de l'activité rémunérée extérieure ou l'activité au foyer. Ouh là, le temps passe vite. Aujourd'hui, on travaille avec ce qu'on appelle le télétravail parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a du bienfait à travailler à la maison. Il y a quelques temps, on pensait que c'était pas très honorable. Et finalement, vous voyez que le cours des choses change. Hein? En Proverbe 14, verset 1, il est dit « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Le mot hébreu « bâti », qui veut dire « bana », c'est le même mot employé dans ce verset. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Ce mot veut dire « obtenir des enfants », « assurer une suite », « bâtir », « rebâtir ». Le corps de la femme a été formé en vue de porter des enfants. Et l'arrivée des enfants dans un foyer lui donne une autre dimension. Et renverser, la femme insensée la renverse, ça c'est le mot hébreu « arak », traduit par « renverser, déchirer, rompre, ruiner, détruire ». Donc il faut s'assurer que les choix que l'on fait vont détruire ou bâtir votre foyer. Votre présence est indispensable. Alors, il semblerait que, maintenant avec les neurosciences, on découvre plein de choses, hein, que séparer de façon soudaine et prolongée un enfant de ses parents peut modifier le développement du cerveau de façon permanente. Parce que l'enfant connaît le stress, des troubles anxieux, des troubles de l'humeur pour certains. Pas tous, hein, il y en a qui s'en sortent bien, ce n'est pas une généralité, mais il y en a qui sont très sensibles. Et le fait d'être séparé des parents, cela peut occasionner du stress, des troubles. Et donc la question qui se pose, c'est que est-ce que l'emploi que vous avez aujourd'hui, il ne s'agit pas de ne pas travailler, moi je travaille, hein, mais est-ce que l'emploi que vous avez aujourd'hui vous permet d'être suffisamment présente pour les enfants qui ont tant de besoins affectifs, surtout quand ils sont jeunes. Quand ils sont plus grands, c'est autre chose, mais quand ils sont jeunes, ils ont besoin de besoins affectifs, de soins. Ils ont besoin de connaître la sécurité d'un foyer chaud et paisible. Et forcément, l'influence sera amoindrie si on est absent du foyer. Ce seront d'autres qui auront cette influence. Les copains, les médias, les réseaux sociaux et les dangers que cela comporte. Parce que maman, vous êtes l'âme du foyer, vous êtes la gardienne du foyer. Il faut que vous soyez le plus possible. Donc, vous pouvez faire juste des ajustements, vous dire qu'est-ce que je peux faire. Peut-être travailler un... C'est possible, hein? Il y a des possibilités d'ajustement, ou même dans le choix d'un travail, pour vous aussi. Mais c'est important de considérer ces choses. Quels ajustements êtes-vous prête à faire pour bâtir un foyer stable? Donc, c'est important vraiment d'examiner ces choses pour que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. La priorité, c'est que votre foyer honore l'Évangile. Et une autre priorité importante pour la famille, c'est d'aider ses parents dans le besoin. Alors moi, je suis en plein dedans. Je suis en train de chez des parents âgés. Et donc, étant loin, ce n'est pas toujours facile de faire les choses comme je devrais le faire. Mais c'est notre responsabilité en tant qu'enfant d'aider nos parents dans le besoin. Et même l'État français, oui, et même l'État français a émis une loi selon laquelle nous sommes des obligés alimentaires pour nos parents. C'est pas l'État qui va s'occuper des parents, c'est nous qui avons cette responsabilité. Donc ça, il faut le considérer aussi, dès maintenant, hein, vis-à-vis de vos parents. Proverbe 23, verset 22, « Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Des fois, tu ne peux pas forcément être à côté, mais tu peux envoyer l'argent pour aider, par exemple. Voilà. Mais c'est une obligation. Et pour terminer, parce que là, je vois que le temps passe vite, notre priorité, c'est l'Église, qui est la deuxième famille. On n'a pas toute une famille, un mari, des enfants, mais on a la famille de l'Église. De Timothée 2:21, « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Donc c'est important vraiment d'être pur, d'être propre, de nettoyer l'intérieur, de se purifier en confessant et en faisant la guerre au péché dans notre vie. Et Dieu pourra nous utiliser dans son œuvre. Dieu a préparé des œuvres pour chacune d'entre nous. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Jean 13, versets 1 à 7. Il est important de servir les autres à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ au sein de l'Église. Par exemple, ça peut être offrir un petit plat chaud à des frères et sœurs qui déménagent ou sont malades, pour une naissance, un décès. Et acte 9, verset 36-39, chercher à devenir une servante comme Dorcas. Elle avait la capacité de coudre. Donc elle a mis cette capacité de coudre au service de l'Église, de ses sœurs. Et donc, quel don vous avez que vous pouvez mettre au service de votre Église? Demande à la femme du pasteur comment tu peux aider dans un ministère à l'église. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, le Seigneur veut que que nous soyons toutes utiles dans son service. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà l'heure. J'ai le temps? D'accord. Ah, d'accord. Mais bon, j'ai pas lu les passages parce que je me suis dit que c'était l'heure. C'était déjà un peu avancé, midi 15 et que c'était midi. Donc voilà, c'est important vraiment d'être utile dans le service du Seigneur et de chercher à accomplir sa volonté. Nous sommes membres les uns des autres et chacune d'entre nous, nous avons notre part à apporter dans l'édifice. Et vous êtes unique, vous n'êtes pas comme moi et vous allez sûrement apporter quelque chose de spécifique à l'église dans laquelle vous servez. Donc, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide toutes à donner la priorité d'abord à Dieu, dans notre relation avec lui, à chercher à être une femme d'influence ayant la maturité spirituelle pour pouvoir conduire d'autres à devenir des disciples, dans notre foyer, à chercher à détruire notre foyer, mais au contraire à bâtir notre foyer. Et dans ce cas, à donner la priorité d'abord à notre mari, en cherchant à avoir une relation fusionnelle, d'amour et de soumission. La soumission, on a dit, elle est fonctionnelle, elle est utile. Ce n'est pas parce qu'on est soumise qu'on est rabaissée, bien au contraire. Et puis aussi que l'on cherche, je rappelle les vérités bibliques par rapport à l'éducation des enfants, l'instruction et la correction, avec amour. Et vous pouvez après lire d'autres passages en approfondissant tout cela. Et cet après-midi, j'espère que vous pourrez apporter aussi vos expériences par rapport à tous ces thèmes qu'on a survolés, mais maintenant, on sait quelle est notre priorité. Et que le Seigneur donc nous aide à cheminer vers le but qu'il a pour nous. À lui soit toute la gloire. Amen. Un jour, il y a une maman qui est venue me voir et je lui ai dit, mais vous êtes sûre que vous voulez laisser votre enfant 5 jours? C'est énorme, hein? Vous n'aurez pas le temps d'être avec votre enfant. Et bien, elle m'a dit, ah, mais vous voyez, j'ai dit, mais oui, essayez, demandez à votre patron une petite journée, même travailler 80%, juste le temps que l'enfant soit petit. Après, vous pouvez reprendre les 100%. Et bien, finalement, vous savez qu'elle a fait. Elle a demandé à son patron. Elle était surprise que le patron ait accepté. Et donc, du coup, elle a travaillé 4 sous 4 jours et elle m'a remercié. Elle m'a dit, ah, merci Patricia, parce que c'est vrai que ça change tout. J'ai demandé le mercredi et je peux prendre du temps avec mon enfant. Donc, ce n'est pas que question de ne pas travailler, mais juste de prendre plus de temps. 5 jours par semaine, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Comment? Voilà. C'est juste peut-être réfléchir à... Quelquefois, on n'ose pas, en fait. On n'ose pas demander au patron un petit ajustement pour être avec l'enfant, un peu plus. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Surtout quand ils sont petits, hein. Quand ils sont grands, c'est un peu différent, mais quand ils sont petits... Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui?
J'avais juste ajouté un mot d'appréciation pour cette application de 1 Corinthiens 13 mm-hmm. vers les enfants. Mm-hmm. C'est très, très bien parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'appliquer vers le mariage.
Ouais.
Mais on peut être. Bon, on a tous notre tendance soit d'être trop. Voilà, pas assez strict, soit être trop mm-hmm. bienveillant avec nos enfants.
C'est ça.
Bien de garder ces deux en vue. Mm-hmm. On doit être strict dans le sens que. Voilà. Établir les règles,
mm-hmm.
mais aussi toujours avec
amour. Avec amour, oui. Tout à fait. Mm. Oui, Yvonne.
Je voudrais juste ce que je ressentis par rapport à ce qui se passe, on va dire géopolitique sociale. Et quand on est chrétien ou chrétienne, on a le droit, on a l'obligation justement quand on a des petits-enfants, les enfants ils ont été élevés, donc ils sont grands, c'est pas le même temps qu'on a maintenant, mm-hmm. mais le temps qu'on a actuellement, on a plus, ce que j'ai ressenti parce que j'ai des petits-enfants, j'ai 5 petits-enfants, c'est comme si qu'il y avait un frein pour parler du Seigneur aux enfants,
mm-hmm.
parce qu'il faut chercher un langage, je ne sais pas comment, pour présenter la parole du Seigneur aux enfants,
mm-hmm.
donc je crois que et les femmes qui ont des enfants qui sont chrétiennes, elles doivent vraiment prier le Seigneur d'avoir plutôt plus de courage, de la crainte de Dieu,
ah, oui.
présenter la crainte de Dieu.
C'est vrai ça.
Parce que c'est très compliqué à l'école, mm-hmm. on ne sait pas comment elle est la maîtresse, il faut même prier pour les maîtresses, parce qu'il y a des maîtresses qui sont comme une agression quand on parle de Dieu,
mm-hmm.
parce qu'on ne sait pas vraiment qui est la maîtresse.
Ouais.
Parce qu'on a vraiment beau, on a beaucoup à faire dans la prière.
Oui, et c'est vrai.
Présenter la chrétienté, surtout l'évangile avec
oui.
les petits-enfants,
c'est vrai.
Qui sont très importants parce que, comme les textes ont dit, les petits, c'est, on doit les former, on doit les enseigner pour l'avenir
de leur
demain.
Mm-hmm.
Et c'est important de vraiment d'être sur nos petits-enfants.
Mm-hmm.
Grave,
mm-hmm.
qu'on mm-hmm. présente aux enfants.
Mais oui, tout à fait. Et on ne finit pas d'instruire. Hein. Moi, j'ai eu des enfants, j'ai instruit mes enfants, et maintenant j'ai des petits-enfants comme toi. Et on continue encore à essayer d'avoir une influence auprès des petits-enfants. Donc, non, c'est important. Hein.
Mm. Oui, pour celles qui n'ont pas eu d'enfants ou celles dont les enfants sont partis, mais
c'est
être un exemple pour ces jeunes mm-hmm. à l'église, hein, comme tu dis, il y a beaucoup de travail dans une église,
bien
hein,
sûr,
il faut vraiment que les tâches soient réparties.
Tout à fait.
Tu as parlé des cours pour les baptêmes, les cours pour mm-hmm. le mariage, tout ça, ça doit vraiment être partagé.
Oui, tout à fait.
Parce que quelquefois, ça retombe souvent sur le pasteur.
La femme du pasteur aussi.
Le pasteur ou le pasteur, mm. alors que ça peut être fait par d'autres.
Tout à fait, tout à fait. Mm. Oui, c'est exactement ça. Mm-hmm. Ouais. Oui? Thank you. Oui. Mais ça, là, c'est encore une question de confiance. Hein. Même si on pense que c'est difficile et que le patron ne va pas accepter, il faut faire confiance. Il faut essayer. Il faut prier et essayer. Et peut-être que le Seigneur touchera son cœur et qu'il va accepter un mi-temps pendant que les enfants sont en bas âge. Ouais. Vas-y. Et tu veux répondre? Oui. Oui, oui. Ouais. Mmh. Amen. C'est ça. Mmh. Amen. Mais oui, c'est ça. Mmh. Amen. Mmh. Mais oui, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Il faut lui faire confiance au Seigneur. Si on veut mettre la priorité, on veut lui donner la priorité, il va ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes. Il pourvoira nos besoins aussi. Oui? Oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est bien. Oui.
Surtout au niveau de la famille de l'église. Mm-hmm. Parce qu'il y a plein de rôles au centre de l'église où on a besoin de. Nous disons régulièrement, si on n'avait pas nos célibataires.
Ah oui, c'est clair. Heureusement qu'ils sont là. Ah là là.
C'est vrai, Patricia, c'est ce que vous dites. Moi, je me rappelle, quand je travaillais, j'avais mes enfants en bas âge.
Ouais.
Et la directrice qu'il y avait avant, pendant 11 ans, je prenais les mercredis.
Mm-hmm.
Il n'a pas voulu me prendre avec les soins que j'avais avant. Mm-hmm. Il me pose des horaires du soir.
Oui.
Et j'avais des enfants en bas âge. Mm-hmm. Et puis, depuis 11 ans, j'avais un horaire stable. Et je suis arrivée avec ma directrice pour pouvoir partir à 18h.
Oui.
Et les mercredis, je les gardais pour mes enfants pour pouvoir accompagner mes enfants dans les activités, mm-hmm. pour pouvoir accompagner dans d'autres choses. Mm-hmm. Il n'a pas voulu. Il m'a dit si vous ne voulez pas m'y prendre avec ces horaires, on va vous licencier. J'ai dit, écoute, moi, je suis désolée, mes enfants sont déjà venus au monde. Mm-hmm. Je ne peux pas les abandonner pour un travail.
Oui.
Soit vous acceptez que j'avais les mêmes horaires, mais mm-hmm. j'échange. Mm-hmm. Mais dans ces cas-là, il n'a pas voulu, j'étais obligée d'arrêter. Mm-hmm. Je cherche autre chose. Dieu merci, le boulot, c'est pas ça qui m'a.
Mais oui.
Mes enfants, je ne vais pas les abandonner.
Amen. Le Seigneur a pourvu. Le Seigneur, mais oui, il faut être courageuse, hein.
Mais c'est pour courageuse. Mm-hmm. Voilà, j'ai dit, je peux les
sentir. Eh oui. Oui, c'est ça.
Mm-hmm. Nous donnons cet exemple dans le lieu du travail qu'une femme a le droit de s'occuper de
son enfant. Oui, tout à fait.
Sa priorité,
oui.
Ça va devenir plus facile, même pour les femmes non chrétiennes.
Ça
va les faire réfléchir, premièrement.
Tout à fait.
Ça va devenir plus facile pour toutes les femmes. Et donc, si nous ne le faisons pas,
qui va le faire? C'est clair. Il faut qu'on nous marque la différence.
Ouais.
Non, tout à fait.